Et maintenant, eh bien, Annette va nous proposer un tout autre livre, un de ses coups de cœur dont elle est la spécialiste, ses biographies magnifiques et ses personnages, ces femmes que l'on découvre. Celle-ci est une égérie toute particulière, mais on vous met un tout petit peu de musique pour imaginer un petit peu le monde dans lequel elle vit. Elle l'aurait vécu si elle avait vécu aujourd'hui, bien sûr.
You've said, but now disillusion is all I feel instead. Your head is a mess and you scream and you shout, 'cause you were born jealous forever in death. Listen to what I've got to say. Oh, why don't you listen? Try to see things my way. Hey, now listen.
C'est Vaya Condio, cette chanteuse d'origine espagnole, mais qui chante en anglais. C'est une chanson à propos des mères et des filles. Et écoute-moi, veux-tu bien écouter ce que j'ai à te dire? T'es une jalouse. Je crois que ces petites phrases-là concernent aussi l'histoire de notre héroïne.
Tout à fait. Et d'ailleurs, elle parlait aussi bien l'anglais que l'espagnol.
Notre Lola. Héroïne, présente-nous-la, Lola.
Absolument,
voilà.
Absolument.
Et c'est vrai Lola, que... vous avez deviné de quelle Lola il s'agit? Parce qu'on n'a encore pas dit. Hein.
Non. En fait, naturellement, elle s'appelait Dolores en réalité. Lola est évidemment le diminutif d'un prénom un peu plus classique. Moi, je suis tombée sur ce livre notamment parce qu'il est écrit par Catherine Hermarie Vieille, qui est une vieille connaissance pour nous, qui est donc une femme écrivaine qui a déjà fait beaucoup de livres, et notamment La Cenora, qui racontait l'histoire de la reine espagnole Isabelle.
De Castille.
C'est pas Isabelle de Castille.
De Castille,
non. Non, c'est sa fille. Non, c'est Jeanne la Folle. Je m'excuse. La mère était Isabelle de Castille. Et c'était Jeanne qui a donc épousé un empereur... le roi de Flandre, et qui a été enfermé pendant 30 ans dans une tour en Espagne. On considérait qu'elle était folle, elle avait effectivement un caractère difficile, et Catherine Hermarie Vieille raconte cela sur le mode du roman. Et en fait, elle reprend un petit peu cette idée-là. Elle se base sur une documentation probablement abondante, qui n'est pas vraiment citée dans le livre comme une bibliographie, mais dont elle parle au début. Et on sent très bien que ce livre est basé sur une connaissance approfondie de l'époque et des gens auxquels elle fait référence. Lola Montes,
c'est elle dont nous voulons parler.
D'ailleurs, c'est en fait un nom de danseuse, si je puis dire. Elle a adopté ce patronyme Montes, alors que son patronyme réel, c'était Mademoiselle Gilbert ou Miss Gilbert, puisqu'elle est née en Irlande. Catherine Hermarie Vieille, je pense, est tombée sur un document parlant de cette dame ou femme. Et puis, passionnée comme elle est, elle a recherché toute la vie de Lola Montes. J'ai d'ailleurs vérifié dans le dictionnaire des femmes célèbres tout à l'heure, et Lola Montes y est citée. Donc c'est quelqu'un qui, sur le plan de l'art et des contacts avec un certain nombre de gens, a marqué son époque. Mais à part ça, on n'en savait pas grand-chose. Et Catherine Hermarie Vieille nous donne là, on ne sait plus si c'est une biographie ou un roman. On peut moi, je lis ça comme un roman, mais tu sais bien que les biographies que je présente ici, je les lis avec autant de plaisir et je les trouve aussi passionnantes, sinon plus que certains romans construits.
Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est un roman ? C'est parce que tu sens qu'il y a une histoire, enfin une invention derrière la biographie ?
Alors, il y a d'abord une chose très simple, c'est noté roman sur la couverture. Et je pense que ce n'est pas du tout anodin, parce que Catherine Hermary-Vieille veut faire un roman. C'est-à-dire qu'à partir, ce n'est pas une biographie qui se veut fidèle. J'ai l'impression, je ne dis pas interviewer Catherine Hermary-Vieille, ça me plairait beaucoup de le faire à l'occasion, mais bon, c'est une dame qui vit aux États-Unis, c'est sûrement difficile de la contacter. Et elle se base sur l'itinéraire véridique de cette femme, qui est un itinéraire absolument extraordinaire, hors du commun, que sûrement peu de femmes à l'époque ont suivi. Ça me rappelle beaucoup l'histoire de Fanny Stevenson, qu'on a évoquée ici il y a une année. Et c'est vrai que ses destins sont plus riches en événements et en passions que n'importe quel roman inventé. Mais elle le raconte à la mode, tout à fait romanesque, et probablement qu'elle se permet pas mal de petites fantaisies pour nous livrer un livre dans lequel on se plonge et puis on ne peut plus arrêter parce qu'on aimerait vraiment savoir alors qui est-ce qu'elle va vraiment aimer, à quel moment il y aura la rupture avec celui-ci ou celle-là, comment est-ce qu'elle va finalement peut-être retrouver sa mère dans de meilleures conditions qu'elle l'a quittée, etc., etc.
Parce que le rapport mère-fille donc est bien au cœur de l'histoire de la Montes.
Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est sûr qu'il est au cœur de ce livre. Il y a d'ailleurs une introduction extrêmement touchante, mais en même temps extrêmement habile sur le plan du roman. Elle est morte jeune, à 42 ans, et en fait, on commence par rencontrer sa mère qui va rechercher les derniers souvenirs de sa fille qu'elle n'a plus vue depuis quasiment plus de 20 ans. Elle ne l'a plus. Donc, on sait dès le départ que Lola a quitté sa famille, elle avait 18 ans, et il n'y a plus eu aucun contact réel entre mère et fille depuis ce moment-là. Mais on sent d'emblée aussi que les contacts mère-fille quand elle était enfant n'étaient pas agréables et qu'elles se sont quittées en très mauvais termes, ce qui a probablement dirigé sa vie d'une certaine façon. Mais c'est utilisé essentiellement sur le plan romanesque, c'est pour nous dire mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Donc on a une fois de plus envie de se plonger dans la vie de cette jeune femme. Ce qui, à mon avis, fait aussi la qualité romanesque de ce livre, c'est le foisonnement des descriptions, des dialogues. Il y a beaucoup de détails sur ses toilettes, par exemple. C'était une très belle femme qui, d'ailleurs, a aussi beaucoup utilisé son physique pour réussir et vivre.
Je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps qu'elle avait été campée par Martine Carole au cinéma.
Oui. Il paraît qu'il y a eu un film, il y a bien longtemps.
Tourné par Max Ophuls, oui.
Voilà. Et effectivement, j'ai parlé l'autre jour avec une vieille dame qui m'a dit « Je connais Lola Montes, j'ai vu. » C'était Martine Carole qui l'interprétait au
Martine
cinéma.
Martine Carole en brune pour cette occasion, donc, puisque la belle Lola Montes était brune et non pas blonde comme Martine Carole.
Non, pas du tout. Mais c'était effectivement, en lisant ce livre, on comprend tout à fait l'attraction que Catherine Hermary-Vieille a ressentie pour cette femme. Et elle nous la restitue comme quelqu'un d'absolument extraordinaire, très volontaire, très fantasque, probablement difficile de caractère, mais peu importe. Ce qui transparaît dans ce livre, c'est la volonté de vivre sa vie et le fait que rien ne l'arrêtait, et en tout cas pas les règlements ou les interdits qui, à l'époque, effectivement, menaient en principe la vie des femmes.
Parce qu'elle a donc vécu au 19e siècle, un siècle qui n'est pas vraiment un siècle de lumière pour ce qui concerne la liberté des femmes.
Née en 1819 et morte en 1861, c'était sûrement pas l'époque où on permettait aux femmes de vivre leur vie. De surcroît, elle a vécu une partie de son enfance aux Indes, puisque ses parents étaient d'origine irlandaise et son père, officier de garnison, a été envoyé aux Indes quand la petite fille avait 5 ans. Et elle a suivi ses parents à ce moment-là. Donc, elle a vécu aussi dans un milieu extrêmement guindé et dirigé essentiellement par les conventions.
Militaires, ciel.
Oui, et puis les règles sociales qui étaient la seule règle de vie. Mmh. C'était, et on sent ça très, très fort. Alors, il y a aussi, tout, au début du livre, évidemment, toute la description de la vie aux Indes. Ça donne une couleur romanesque aussi, comme tu peux penser, tout à fait intéressante. Et Catherine Hermarie-Vieille manie très très bien la plume, il faut le dire. Hein. Donc on ne s'ennuie vraiment pas une minute. Moi j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à lire ce livre.
Donc tu as du plaisir, Annette, à te replonger dans une autre période comme ça, parce que c'est vrai que c'est tellement différent de ce que nous on vit aujourd'hui, autant du point de vue social, politique,
tout à fait,
que justement c'est l'occupation de ces femmes, etc., qui, à part si elles étaient de conditions très très modestes, n'étaient pas confrontées aux exigences du travail, etc. Qu'est-ce qui te passionne? Tu as besoin de cette part de rêve dans ta vie tellement occupée par de multiples tâches? Est-ce que tout à coup c'est important pour toi de t'arrêter, de me dire je me permets cette part de rêve là comme ça?
Alors, j'imagine bien que la lecture, pour moi, c'est tout à fait ça, comme pour pas mal de lectrices.
Oui,
hein, parce
oui.
que c'est vrai qu'à la librairie, nous avons un certain nombre de clientes qui viennent, qui nous demandent parfois « j'aimerais un bon livre pour mon week-end ». Et c'est vrai qu'on n'en a pas tellement, tellement à proposer. C'est pas si facile que cela de trouver un bon livre où on s'immerge complètement et où effectivement... On a cette sorte de compagnonnage avec quelqu'une, hein, en général c'est quelqu'une,
voilà.
et qui nous fait vibrer. Et grâce à certains types de romans ou effectivement de biographies, on arrive à faire ça et je crois que c'est effectivement quelque chose de très très précieux. En tout cas pour moi c'est très précieux et je ne suis pas la seule
à le vivre comme ça. Je suis persuadée.
Et effectivement, Lola, c'est vraiment typiquement le livre que je conseillerais à quelqu'un qui veut passer... Bon, maintenant on espère qu'il fera beau temps, mais enfin on peut prendre à la plage un livre comme ça
ou
en hiver, le lire au coin du feu quand on a un week-end de pluie devant soi. C'est vraiment une histoire dans laquelle on ne s'ennuie pas. Et je le précise parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle best-sellers, des livres écrits par des hommes ou des femmes. Il y a beaucoup, beaucoup d'écrivains ou d'écrivaines qui commettent des gros livres. Il est gros, ce livre. Hein. Mais qui sont des livres qui n'ont pas du tout de qualité romanesque suffisante pour qu'on aille au bout. Moi, j'en feuillette pas mal, j'en commence et je ne les finis pas. Ceux dont je parle ici, c'est ceux que j'ai vraiment, dans lesquels je suis jusqu'au bout et qu'à la limite, je relis de temps en temps une ou deux pages pour bien me remettre dans l'histoire, de manière à vraiment suivre toutes les péripéties de la personne.
Et toi qui as maintenant lu beaucoup de ces biographies, toutes plus ou moins romanesques aussi, est-ce que tu sens qu'il y a un fil rouge parmi toutes ces façons d'écrire des femmes quand elles racontent l'histoire d'une autre femme? Ou est-ce que c'est très différent de l'une à l'autre? Est-ce que si on te faisait lire une de ces biographies sans dire qui est l'auteur, peut-être, à force d'en lire, tu serais capable de dire qui l'a écrite? On reconnaît vraiment la patte de l'écriture de l'auteur, ou c'est finalement le style d'écriture, la biographie romanesque est le plus important, c'est ça qui donne la griffe plutôt que l'auteur lui-même?
Je pense qu'il y a quand même une part de plume de la biographe romancière. C'est quand même tout autre chose que quelqu'un qui se fait un nom de plume. Mais Catherine Hermarie-Vieille, effectivement, elle a une façon d'écrire qu'on peut faire des comparaisons tout à fait fines d'un livre à l'autre et se rendre compte que c'est le genre de communication qu'elle a avec ses héroïnes. Et sa manière d'écrire, mais elle n'est pas spécialement caractéristique. C'est pas du tout une plume qu'on peut comparer à des grands écrivains ou écrivaines. Ça, c'est tout à fait différent. Et bon, moi, je trouve que c'est important de lire beaucoup de choses différentes. Les plaisirs que la lecture procure sont extrêmement divers. Alors, j'ai pas du tout le même plaisir à lire ça qu'à lire un grand écrivain comme Garcia Marquez ou une femme comme Colette ou Marguerite Yourcenar. C'est quelque chose de différent. Mais le plaisir est différent, mais le plaisir est tout aussi intense.
Ah, c'est sûr, voilà. Je suis sûre qu'avec un bon polar, on passe aussi des.
Oui, moi, j'aime pas les polars, alors j'aime les biographies. Je crois que chacun son genre, hein, ça c'est sûr.
Ouais.
Mais disons que le livre qui se rapprocherait le plus de ce dont on a parlé ici, c'est La vie de Fanny Stevenson, qui est aussi écrite par une femme. On pourrait comparer facilement les deux. Je ne sais pas si elles se connaissent les deux, mais je pense qu'elles ont d'ailleurs le même âge. Catherine Hermarie-Vieille et Alexandra Lapierre, c'est aussi des femmes engagées dans l'écriture, mais pas comme des romancières ou des poètes, dans une recherche un petit peu différente.
Est-ce que dans la biographie de la Montes, on découvre un petit peu aussi le cadre social et politique dans lequel vivait cette femme? Parce que des fois, on a l'impression, si je pense à Fanny Stevenson, on l'a beaucoup suivie, elle, et finalement, des fois, on se demande un petit peu quels sont les événements qu'il y a autour. On se rend compte des rapports sociaux, oui, mais les événements autour disparaissent beaucoup derrière l'histoire même des rapports de personnes, par exemple de Fanny avec Stevenson. Donc, comment ça se passe pour la Montes? Parce que si elle est dans un pays colonialiste, colonisé, par exemple, est-ce qu'on sent cette présence du colon dans un pays? Est-ce qu'elle vit cette situation mal, bien? Comment elle se confronte aux Indiens? Enfin, je ne sais pas.
C'est pas très très important. C'est vraiment l'arrière-fond du tableau. Donc Catherine Hermarie-Vieille est tout à fait bien documentée là-dessus et tout ce qu'elle nous donne, je crois qu'on peut tout à fait lui faire confiance, que ça se passe aux Indes, en Irlande, avec les problèmes terribles des hobereaux irlandais au début du 19e siècle, à Paris avec le début du journalisme. Ça rappelle Bellamy, Maupassant, enfin toute cette vie-là. Elle parle d'Alexandre Dumas, de Georges Sand. C'est tout à fait juste ce qu'elle nous en dit, mais elle en dit fort peu. Elle le dit vraiment que par rapport à sa figure, à la figure qu'elle décrit, c'est-à-dire Lola Montes. Mais bon, elle se permet d'ailleurs, je crois, quelques incursions dans le monde des grands, un petit peu osées sur le plan historique, probablement. Il y a une ou deux rencontres qui sont probablement inventées, ou en tout cas qui ne se sont pas passées de cette façon-là. Je pense à la rencontre de Lola Montes et de Liszt. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas poursuivi pour être sûre que c'était tout à fait comme ça que ça se passait. Mais c'est dans le contexte. En tout cas, dans le livre, ça ne dérive pas du tout. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais les couleurs, les odeurs qui entourent cette femme sont très, très bien décrites. Et là, les Indes, c'était très. Il y a vraiment quelque chose de tout à fait fort qui se dégage, mais c'est toujours par rapport à Lola Montes, à ses sentiments, à ses relations, à ses colères, enfin, tout ce que l'on veut. Mais ça ne se veut pas décrire autre chose. Hein. C'est vraiment. On la suit à la trace, dans différents pays, dans différentes villes.
Alors, Lola Montes, une biographie signée Catherine Hermarie-Vieille, un bon bouquin à emmener n'importe où vous pouvez décider d'aller pour vos vacances.
Tout à fait.
Now I justify and explain my deeds all day long. But all you can hear are those voices say I don't you wrong. You want to keep me in chains, but I was born free, and I ain't gonna change. Now listen, listen to what I've got to say. Why don't you listen? Try to see things my way. Hey, now listen. Why believe deceive you with someone else? Why don't you listen? Listen, listen, listen.
Toujours Vaya con Dios qui nous accompagne aujourd'hui, ainsi que Annette Zimmermann et la librairie des femmes Lynn, édite dans Remue Ménage, Onde Femmes, Radio Zone 93.8. Je disais en tout début d'émission, Annette, que nous pouvions découvrir les comptes rendus de certains livres que vous envoyez régulièrement à vos fidèles abonnés, parce qu'elles sont acheteuses, lectrices, mais pas forcément. En fait, elles décident de s'abonner à Livre à Elles.
Alors justement, j'ai le numéro du mois de juin qui vient de sortir, que personne n'a encore reçu, parce qu'il est en
avant-première.
Il est en train d'être étiqueté et il sera envoyé demain, donc justement, à nos abonnés. Et je précise qu'effectivement, il est très copieux et que notamment, nous proposons à nos lectrices une série des dernières nouveautés en format de poche. Donc, il s'agit de pas mal de livres que nous avons à l'époque vendus en grande édition et qui ensuite sont repris dans les éditions de poche en fonction de certains éditeurs. Et pour vos vacances, vous aurez là alors un choix tout à fait intéressant et très, très fournis, qui sont tous des livres que nous avons lus et aimés et que nous proposons parce que nous les avons lus et aimés et pas parce que ce sont des best-sellers.
Ça, c'est un très bon critère. Je crois que toujours se faire recommander un livre par quelqu'un qui l'a beaucoup aimé, je trouve que c'est très, très satisfaisant.
Il y a quelque chose d'autre qui passe. Hein?
Absolument, absolument.
Ça c'est certain. Uh-huh. Alors, ce catalogue est donc envoyé aux abonnés. Il sera disponible pour la vente, notamment au pont de Saint-Gervais, puisque nous irons la semaine prochaine, donc vendredi, samedi, dimanche. Nous participons avec un certain nombre d'associations de femmes au pont de Saint-Gervais. La librairie sera présente avec quelques livres et son livre à elle, pour les personnes qui ensuite pourraient venir encore avant l'été chercher un ou deux romans, un ou deux livres de poche chez nous avant les vacances.
Si on veut s'abonner à Livre à Elle, quelle est la solution la plus simple?
Alors la plus simple, c'est venir à la librairie, le prendre et remplir le coupon réponse qui est derrière. On peut aussi téléphoner et demander un abonnement, il n'y a aucun problème.
Nous vous donnerons tous ces numéros à la fin de l'émission.
D'accord. Et je le dis déjà, mais nous le rappellerons encore à la fin de l'émission, que pendant les vacances d'été, nous serons fermés du 18...
Hésitation sur les vacances.
Oui, hésitation sur les vacances. Du 15 juillet au 26 août, la librairie sera fermée. Non, la librairie sera fermée du 17 juillet au 12 août, mais un horaire différent sera prévu en été. Donc, nous ouvrirons simplement l'après-midi pendant les mois de juillet, du 18 au 15 juillet et du 14 au 26 août. Donc, nous avons 2 semaines où nous ouvrons à temps partiel, mais nous sommes toujours disponibles. Si quelqu'un n'a aucun moyen de venir à la librairie qu'un matin, elle téléphone ou il téléphone et nous ouvrirons pour lui ou pour elle.
Ça, c'est un service alors. Les librairies à la carte pour le client. Fantastique. Alors Annette, il est un dernier livre dont tu avais envie de nous parler aujourd'hui. Un livre dont tu m'as dit que plusieurs personnes en ont causé de façon différente. Toi, ta façon, ton envie de vouloir nous en parler. Ce livre, c'est « Va où ton cœur te porte » de Susanna Tamaro,
oui. Voilà. Donc, qui est d'origine italienne. Ce livre est donc une traduction de l'italien. Il a paru l'année passée en Italie et il a eu un summum de ventes. Donc, c'est un livre qui a enthousiasmé énormément, énormément de gens. Et aujourd'hui, effectivement, il est d'ailleurs pas seulement dans notre librairie, mais dans beaucoup, beaucoup de librairies de la ville de Genève. Et il se vend vraiment avec énormément de succès. Souvent, on essaye, nous, de parler de livres qui sont peut-être moins connus, parce que les femmes écrivaines ne sont pas forcément très connues. Mais je crois que c'est aussi important de reconnaître la qualité ou l'intérêt d'un livre qui a quand même un impact médiatique.
Et puis, de temps en temps, d'avoir une femme écrivaine qui a un réel succès, on ne va pas comme ça cracher dessus.
Non,
ça fait vraiment plaisir.
Voilà. En plus, ça c'est sûr. Alors, Susanna Tamaro a conçu son livre de la façon suivante. C'est une jeune femme, mais elle se met dans la peau d'une dame âgée, qui est entre autres la grand-mère d'une petite fille qu'elle a élevée. Cette grand-mère a eu une vie difficile, Elle est née donc bien avant la guerre. Elle était jeune mariée pendant la guerre. Et elle a énormément souffert des conditions sociales dans lesquelles elle vivait jeune fille, c'est-à-dire une famille extrêmement rigide. Un mariage qu'elle n'a pas vraiment choisi et un mari qu'elle avait de plus en plus de peine à supporter dès le début de son mariage, parce qu'il était vieux, peu intéressant, et elle se sentait assez impuissante face à sa vie. Il y a eu un certain nombre de rebondissements, et à la fin, quand cette femme sent d'ailleurs la mort venir, on sent qu'elle est vraiment à la fin de sa vie, elle le dit très clairement, elle a besoin de se libérer, elle a besoin de dire. Et c'est quelque chose qui imprègne tout le livre, c'est cette idée de la confession qui n'est pas du tout misérabiliste, bien au contraire, mais qui se veut un retour sur soi-même difficile, parce que reconnaître, j'ai pas envie de dire ses erreurs, parce que on vit sa vie comme on peut, hein. On fait pas, c'est pas qu'on fasse des erreurs, des fautes, mais on vit des succès, on vit des frustrations, on vit des drames, plus ou moins fortement. Et elle se dit, en fait, j'ai jamais raconté ça à personne. Et il faut que, le plus important, c'est la communication. Il faut le dire. Et elle raconte sur le ton de, donc c'est un monologue, en fait, ce livre. C'est une longue lettre écrite à la petite fille, qui est en fait une jeune fille de 20 ans, partie en Amérique. Et la grand-mère raconte sa vie à elle, et aussi toute sa relation avec la mère de la petite fille qui a disparu quand celle-ci était bébé. Donc en fait, la petite fille a toujours ignoré réellement la vie de sa mère, et c'est l'occasion de la lui raconter. Donc il y a à la fois, il y a deux éléments dans ce livre. Il y a l'histoire de trois femmes, enfin, surtout de deux, la mère et la fille, qu'on raconte à la troisième qui est la petite fille. Et on apprend beaucoup de choses concrètes sous forme des histoires de vie. Et en même temps, il y a ce besoin de cette femme âgée de se confier et d'essayer de comprendre ce qui est arrivé sans faire aucune morale. C'est vraiment jamais, jamais il y a un mot ou une phrase de trop sur le plan de moralisateur. Parce que ça pourrait vraiment être une tentation. C'est-à-dire, moi j'ai fait ça, ça s'est mal passé, j'aimerais te mettre en garde contre certaines choses. C'est pas du tout ça qu'elle veut faire, cette dame. Elle a d'abord besoin d'être elle-même et de raconter, tout simplement. C'est très touchant. Et je pense que ça, c'est ça qui a touché tout le monde, même si on n'a pas forcément l'habitude d'être aussi honnête les uns avec les autres. On a peur, et puis parfois on a raison d'avoir peur de raconter sa vie ou ses problèmes. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours nécessaire. Alors là, il y a une qualité de la communication qui est assez extraordinaire. Et je pense que c'est ça qui fait, entre autres, l'intérêt du livre. Il touche beaucoup, beaucoup les lecteurs et les lectrices.
Alors, tu te proposes de nous en lire quelques extraits. Je n'ai pas de chanson italienne pour aller avec cela, mais j'ai la voix d'une grande cantatrice qui chantait dans un enregistrement de 1958. C'est la Callas dans la Traviata et c'est Violetta. Pourquoi tu avais envie de nous lire particulièrement des extraits?
Je trouve que le style de Susanna Tamaro, bon, c'est une traduction de l'italien, c'est toujours difficile, mais il est très imagé. Et cette grand-mère a toujours des comparaisons extrêmement amusantes, intéressantes ou subtiles. Et je les aime beaucoup, c'est pour ça que j'ai envie de vous en lire quelques-unes.